Chapitre 23. Nos fils étaient rentrés de leurs travaux échevelés, mais secs. Le tonnerre et la pluie étaient restés au-dessus de la mer. Pendant que les autres prenaient leur repas, je montais jusqu'au pic le plus élevé de l'île pour sentir le sort au-dessus de moi. Il s'étendait d'une baie à l'autre, des sables jaunes aux rochers pointus. Je le sentais aussi dans mon sang, ce poids de fer que je portais depuis si longtemps. Athéna l'avait sûrement testé, rôdant au bord, à la recherche d'une faille. Mais il tiendrait. À mon retour, Pénélope était de nouveau assise devant le métier. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « On dirait qu'il y a une accalmie. La mer devrait être plutôt tranquille. Veux-tu apprendre à nager, Télégonos ?» De toutes les choses que j'aurais cru voir ressortir de notre conversation, celle-ci ne faisait pas partie. Cependant, je n'eus pas le temps d'élaborer une objection. Dans son enthousiasme, Télégonos faillit renverser sa coupe. Alors qu'il partait en traversant le jardin, je l'entendis lui expliquer mes plantes. Depuis quand savait-il ce qu'était un charme ou de la ciguë? Il les désigna toutefois tous les deux en citant leurs propriétés. Télémaque était arrivé en silence derrière moi. On dirait une mère et son fils, remarqua-t-il. Bien que j'aie pensé exactement la même chose, j'eus un accès de colère en l'entendant exprimer cette idée à voix haute. Sans répondre, je sortis dans le jardin, puis m'agenouillai dans les plates-bandes pour arracher des mauvaises herbes. Il me surprit en m'y rejoignant. « Ça ne me dérange pas d'aider ton fils, mais soyons honnêtes, cette porcherie que tu nous as demandé de réparer n'a pas été utilisée depuis des années. Peux-tu me donner une tâche vraiment utile ?» Assise sur mes talons, je le dévisageai. En général, les membres d'une famille royale ne sollicitent pas de corvée. Il semblerait que mes sujets m'aient laissé du temps libre. Ton île a beau être magnifique, je vais devenir fou si je dois y rester oisif jour après jour. Que sais-tu faire alors ? Les activités habituelles, pêcher et tuer le gibier, m'occuper des chèvres que tu n'as pas, tailler le bois et construire. Je pourrais réparer le bateau de Télégonos. Il a un problème ? La barre est lente et peu fiable, les voiles trop courtes et le mât trop long. Sans compter qu'il tangue furieusement à chaque creux. Il ne me paraît pas si mal que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impressionnant pour un premier essai, juste que je suis stupéfait que nous n'ayons pas sombré en venant ici. Je lui ai jeté un sort contre le naufrage. Comment es-tu devenu un constructeur naval aussi compétent ?
Je viens d'Ithaque, répondit-il simplement.
Et alors ? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? Il prit un air sérieux, comme s'il énonçait un diagnostic. La laine des moutons est tellement emmêlée que la tonte de printemps risque d'être compromise. Il y a 3 tables bancales dans la grande salle, et les dalles du sentier du jardin sont branlantes. J'ai aussi vu au moins 2 nids d'oiseaux dans tes avant-toits. J'étais à moitié amusée, à moitié offensée.
C'est tout ?
Je n'ai pas encore passé l'île en revue. Demain matin, tu te mettras à la réparation du bateau de Télégonos. Aujourd'hui, nous allons commencer par les moutons. Il avait raison. Leur toison était emmêlée et, après l'hiver humide, boueuse jusqu'au cou. J'apportai la brosse avec un grand bol rempli d'une de mes potions. Il l'examina.
À quoi sert-elle ?
À enlever la boue sans arracher la toison. Il connaissait son affaire et se mit à l'ouvrage avec efficacité. Mes moutons étaient dociles, mais il avait ses propres trucs pour les amadouer. Il les guidait sans effort ici et là, en leur posant simplement une main sur le dos.
Tu as déjà fait ça auparavant, notai-je.
Bien sûr. Cette lessive est excellente. Qu'est-ce que c'est ?
Chardon, armoise, céleri, soufre. Et un peu de magie.
Ah. Ciseaux en main, je me mis à couper les nœuds dans les toisons des bêtes. Il s'enquit de leur pédigré, puis de mes méthodes de reproduction. Il voulait savoir si un sort les rendait dociles ou si c'était mon influence. Dès qu'il avait les mains occupées, il perdait sa raideur et sa gaucherie. Bientôt, il en fut à me raconter ses folies en matière d'élevage de chèvres et je me pris à rire. Je ne vis pas le soleil disparaître dans la mer et sursauter quand Télégonos et Pénélope apparurent à nos côtés. Je sentis les yeux de cette dernière fixés sur moi au moment où nous nous levâmes en essuyant nos mains pleines de terre.
Venez, annonçai-je, vous devez avoir faim. Ce soir-là, Pénélope s'éclipsa encore une fois tout de suite après le dîner. Je me demandais si elle voulait me transmettre un message, mais sa fatigue paraissait plutôt authentique. Elle est encore en deuil, me chapitrai-je, comme nous tous. En tout cas, la natation avait fait du bien à mon fils, à moins que ce ne soit l'attention de Pénélope. Ses joues étaient rougies par le vent et il avait envie de parler. Pas de son père, c'était encore une blessure trop sensible, mais de son premier amour, les histoires de héros. Apparemment, il y avait à Ithaque un barde qui excellait à les relater. Il voulait entendre de Télémaque les versions qu'il lui avait racontées. Télémaque commença. Bellérophon et Persée, Tantale, Atalante. Il avait repris le siège en bois et moi le fauteuil argenté. Télégonos s'était adossé à une louve, par terre. Tandis que mon regard passait de l'un à l'autre, j'eus un sentiment étrange, presque ivre d'irréalité. N'y avait-il que 2 jours qu'ils étaient arrivés? J'avais l'impression qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Je n'étais pas habituée à avoir autant de compagnie, à tant de conversations. Mon fils le supplia de raconter une autre histoire, puis encore une autre, et Télémaque s'exécuta. Il était décoiffé d'avoir travaillé dehors, la lueur du feu éclairait sa joue. À bien des égards, il paraissait plus vieux qu'il ne l'était, mais possédait aussi des courbes douces qu'on aurait pu qualifier d'enfantines. Même si ce n'était pas un conteur, comme il l'avait souligné, bizarrement son récit n'en était que plus agréable, et j'aimais observer son visage sérieux, absorbé dans la description des chevaux ailés et des pommes d'or. La pièce était chaude et le vin bon. Ma peau me donnait l'impression d'être aussi molle que de la cire. Je me penchai en avant. « Dis-moi, le barde t'a-t-il déjà parlé de Pasiphaé, reine de Crète ?»«
La mère du Minotaure, » commenta Télémaque. « Bien sûr, elle apparaît toujours dans l'histoire de Thésée. »
Quelqu'un a-t-il dit ce qu'elle est devenue après la mort de Minos? Elle est immortelle. Règne-t-elle encore là-bas? Télémaque plissa le front. Ce n'était pas du déplaisir, plutôt l'air qu'il prenait pour examiner la lessive pour la laine de mes moutons. Je le vis suivre les fils emmêlés des généalogies. Une fille du soleil, c'est ce qu'on disait de Pasiphaé. La compréhension se peignit sur ses traits.
Non, sa lignée et celle de Minos ne règnent plus. Un homme nommé Leucos est devenu roi, après avoir usurpé le trône d'Idoménée, le petit-fils de Pasiphaé. Dans l'histoire que j'ai entendue, elle est retournée au palais des dieux après la mort de son époux et vit là-bas, entourée d'honneur.
Quel palais?
Le barde ne l'a pas précisé.
Une imprudence vertigineuse s'était emparée de moi. Probablement celui d'Océan, notre grand-père. Elle y terrorise sans doute les nymphes comme par le passé. J'étais là au moment où le Minotaure est né. J'ai aidé à le mettre en cage. Télégonos en resta bouche bée.
Tu es apparenté à la reine Pasiphaé? Et tu as vu le Minotaure? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit?
Tu ne me l'as pas demandé.
Mère, il faut que tu me racontes tout. Tu as rencontré Minos et Dédale?
Comment crois-tu que je me suis procuré ce métier?
Aucune idée. Je croyais que c'était, tu sais...
Il agita vaguement une main en l'air. Télémaque m'observait.
« Non, »
repris-je, « j'ai bien connu cet homme. »«
Que m'as-tu caché d'autre ?»
voulut savoir Télégonos.
« Le Minotaure, le Trigon et combien d'autres ? La Chimère ? Le lion de Némée ? Cerbère et Scylla ?»
Tout occupé à sourire de le voir protester, les yeux écarquillés, je n'avais pas vu venir le coup. Où mon fils avait-il entendu son nom ? Par Hermès? À Ithaque? Peu importe. La pointe froide d'une lance me tordait déjà les boyaux. À quoi pensais-je donc? Mon passé n'était pas un jeu ni une aventure flamboyante. Il ressemblait à l'affreux varech que les tempêtes laissent pourrir sur la rive. Il était aussi terrible que celui d'Ulysse.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ne me posez plus de questions.
Je me levai, tournant le dos à leur visage surpris. Dans ma chambre, je m'allongeai sur mon lit. Il n'y avait ni loup ni lion, ils étaient restés avec mon fils. Quelque part au-dessus de nous, Athéna nous surveillait de son regard perçant, attendant avec sa lance de frapper mon point faible.
je m'écriai dans la pénombre. « Tu peux continuer à attendre !»
Et même si j'étais persuadée de ne pas trouver le sommeil, je m'endormis. Je me réveillai les idées claires, déterminées. La veille au soir, la fatigue m'avait poussée à boire plus qu'à l'accoutumée, mais j'étais redevenue forte. Je préparai le petit déjeuner. Lorsque Télégono s'entra, je vis qu'il me fixait, prêt à un nouvel éclat. Contre toute attente, je me montrai aimable. Il ne devrait pas être surpris, pensais-je. J'étais parfaitement capable d'être aimable. Télémaque ne laissa rien paraître, mais dès la fin du repas, il emmena son frère dehors pour réparer le bateau.
« Puis-je utiliser ton métier encore une fois ?»
Pénélope portait une autre robe, plus raffinée, comme délavée, d'une pâle couleur crème qui mettait admirablement en valeur la teinte foncée de sa peau. « Oui. » Je songeais un instant à aller dans la cuisine. Néanmoins, comme je coupais souvent mes herbes à la longue table près de l'âtre, je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû m'y exiler. J'apportais les couteaux, les bols et tout le reste. Les sorts qui protégeaient Télégonos n'avaient pas besoin d'être renouvelés avant une demi-lune, et je travaillais pour mon propre plaisir, écrasant et séchant, distillant des teintures mères en vue de futures préparations. Je pensais que nous ne parlerions pas. À notre place, Ulysse aurait probablement continué ses cachotteries et ses manigances juste pour s'amuser. Mais après tant d'années de solitude, je crois que nous en étions toutes deux venues à apprécier la valeur d'une conversation ouverte. La lumière entrait à l'oblique par la fenêtre, dessinant un cercle autour de nos pieds nus. Je la questionnai sur Hélène, et elle me raconta des histoires sur leur enfance commune, quand elle nageait dans les rivières de Sparte et jouait à la cour de leur oncle Tindare. Nous discutâmes du tissage et des meilleures races de moutons. Je la remerciai d'avoir appris à Télégonos à nager. Elle dit en être ravie. Il lui rappelait son cousin Castor, avec son enthousiasme et sa bonne humeur, sa façon de mettre son entourage à l'aise. Ulysse attirait le monde à lui. Télégonos lui court après et le remodèle comme une rivière qui creuse son lit. J'étais enchantée de ses louanges. Tu aurais dû le voir quand il était bébé. Jamais on n'aurait rencontré une créature aussi sauvage, même si, pour être honnête, j'étais encore plus sauvage que lui. La maternité me paraissait facile avant d'avoir eu un enfant.
Le bébé d'Hélène était pareil, Hermione. Elle a hurlé pendant des années, mais en grandissant, elle est devenue la douceur incarnée. J'avais toujours peur que Télémaque ne crie pas suffisamment, qu'il soit sage trop tôt. J'ai toujours été curieuse de savoir en quoi un second enfant aurait pu être différent. Mais, le temps qu'Ulysse rentre à la maison, cette époque était révolue pour moi.
Elle s'était exprimée d'un ton factuel. Loyale, c'est ainsi que les chansons la qualifieraient ensuite. Fidèle, sincère et prudente. Quels adjectifs passifs et insignifiants. Elle aurait pu prendre un autre mari, porter un autre enfant en son absence, et sa vie en aurait été bien plus facile. Toutefois, elle l'aimait férocement et ne voulait personne d'autre. Je pris une botte d'Achillée millefeuille pendue au plafond.
Quel est son usage?
Fabriquer des baumes cicatrisants. L'Achillée arrête les saignements.
Puis-je regarder? Je n'ai jamais vu pratiquer la sorcellerie.
Cette demande me plut autant que ses compliments sur Télégonos. Je fis de la place sur la table. Pénélope était un public flatteur, très attentive, posant des questions prudentes au fur et à mesure que je nommais chaque ingrédient en expliquant son utilité. Elle voulut voir les herbes dont je m'étais servi pour transformer les hommes en pourceaux. Je laissai tomber leurs feuilles séchées dans le creux de sa main.
« Je ne suis pas sur le point de me transformer moi-même en truie, n'est-ce pas ?»«
Il faudrait que tu les avales et que tu prononces les mots qui déclenchent le pouvoir. » Seules les plantes issues du sang divin n'ont pas besoin qu'on invoque leur magie. De plus, il faudrait que tu sois sorcière, je crois.
Ou déesse.
Non, rectifiai-je. Ma nièce a beau être mortelle, elle est capable de jeter des sorts aussi puissants que les miens.
Ta nièce? Tu ne veux pas parler de Médée?
Il était étrange d'entendre de nouveau ce nom, après si longtemps. Tu la connais?
Seulement ce qui est chanté par les bardes et joué dans les cours pour les rois à son sujet.
j'aimerais entendre cette histoire. » Dehors, les arbres bruissaient avec force dans le vent à mesure qu'elle parlait. Médée avait bien échappé à Aétès. Elle était retournée à Iolcos avec Jason, à qui elle avait donné deux fils. Malgré tout, sa sorcellerie le rebutait et son peuple la méprisait. Au bout d'un certain temps, il contracta un nouveau mariage avec une jeune princesse appréciée de ses sujets. Médée loua sa sagesse et envoya des cadeaux à la nouvelle épousée, une couronne et une cape qu'elle avait tissées elle-même. Lorsque la jeune fille les enfila, elle fut brûlée vive. Ensuite, Médée traîna ses enfants jusqu'à l'autel, puis, jurant que Jason ne pourrait jamais les avoir, leur trancha la gorge. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle appelait un char tiré par des dragons pour la ramener en Colchide. Les bardes avaient sans nul doute arrangé l'histoire, mais je voyais encore le visage lumineux et saisissant de Médée. Elle aurait préféré mettre le monde à feu et à sang plutôt que de perdre la partie, j'en étais convaincue. Un jour, je l'ai averti que son mariage n'engendrerait que des désastres. Je n'ai aucun plaisir à constater que j'avais raison. C'est rarement un plaisir. La voix de Pénélope était douce. Peut-être songeait-elle à ses enfants massacrés. Moi aussi, je pensais à eux. Et au char tiré par des dragons, qui était évidemment celui de mon frère. Il semblait incroyable qu'elle lui soit revenue, après tout ce qui s'était passé entre eux. Et pourtant, je l'imaginais sans mal. Aétès voulait un héritier, et personne ne lui ressemblait autant que Médée. Elle avait grandi en apprenant sa cruauté, et en fin de compte, elle n'avait visiblement pas réussi à se comporter autrement. Je versai du miel sur l'achille et millefeuille, ajoutai de la cire d'abeille pour lier le baume. L'air musqué dégageait une puissante odeur d'herbe. Pénélope reprit. « Qu'est-ce qui fait qu'on est sorcière alors, si ce n'est pas la divinité ?»« Je n'en suis pas sûre. J'ai d'abord pensé que c'était héréditaire, mais Télégonos n'a pas de sort en lui. J'en conclus que c'est surtout une affaire de volonté. » Elle acquiesça. Je n'avais pas besoin d'expliquer davantage. Nous savions toutes deux ce qu'était la volonté.